have to remember that Australia, New Zealand and Canada
President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb.
I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy.
La fabrique de la guerre froide.
Aujourd'hui, sur l'aérodrome d'Orly, un quadrimoteur américain arrive et amène en Europe le général Marshall, secrétaire d'État américain, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères du gouvernement des États-Unis. Tandis que des employés de l'aérodrome se précipite vers l'avion avec une échelle roulante. Voici que apparaît le général Marshall en pardessus noir, costume gris, chapeau gris, écharpe marron. Nous allons nous essayer d'obtenir du général Marshall une courte déclaration.
We've had a very pleasant trip, very fast flying. I believe we've arrived here about several hours ahead of the original schedule. I'm very happy to be here in France again.
En ce début du mois de mars 1947, si le père du plan Marshall a goûté sa traversée de l'Atlantique, ses propositions de financement de la reconstruction des pays belligérants de la Seconde Guerre mondiale vont bientôt se heurter au refus soviétique.
L'idée d'une aide américaine massive aux pays d'Europe pour reconstruire leur économie avec une aide financière massive et également des exportations massives américaines, dans un premier temps, intéresse l'URSS.
Emilia Robin.
Et en plein milieu des négociations, d'un seul coup, l'attitude soviétique change, c'est raidi d'un seul coup, et on se retrouve dans l'impasse, et le refus soviétique devient évident. Alors, qu'est-ce que les soviétiques veulent et qu'est-ce qu'ils refusent ? Ils souhaitent qu'on ne leur demande pas des comptes sur l'affectation intérieure des sommes reçues. Or, la logique du plan Marshall est qu'on ne peut pas juste donner une carte blanche sur les financements sans vérifier qu'il y a une cohérence dans ces financements. Par exemple, il y a une puissante sidérurgie française, une puissante sidérurgie belge. On ne peut pas, dans deux pays à 200 km de distance, créer deux énormes usines de sidérurgie qui seront concurrentes sur les matières premières comme sur les débouchés. Il faut que ce soit cohérent et rationnel à l'échelle de la reconstruction européenne. Donc, il faut une concertation des concessions mutuelles. Et cela, l'URSS le refuse. Le deuxième point, c'est que dans les projets américains, il y a une part de contrôle. Et donc, cela implique finalement des inspections, des rapports, des vérifications et dans certains cas, éventuellement une part d'ingérence ou de contrôle sur les affaires intérieures des États. Et ça, l'URSS le refuse. Ce qui surprend, choque et inquiète également l'URSS, c'est que le plan est ouvert à tous les pays d'Europe indistinctement, y compris l'Allemagne, alors que c'est l'Allemagne qui a causé la Seconde Guerre mondiale et qui a détruit l'Europe de l'Est et l'URSS. Donc on veut reconstruire l'agresseur en même temps que l'agressé. Et les pays vaincus de la Seconde Guerre, donc Italie, Finlande, Hongrie, etc., sont également invités à la conférence. Donc les vaincus et les vainqueurs sont sur un pied d'égalité pour la reconstruction. Et cela semble à la fois injuste et suspect. Il y a un troisième aspect qui là n'est pas un aspect technique mais un aspect idéologique. Pour l'URSS, dans la conception marxiste, tout part de l'économie et des structures économiques. Or, d'une part, l'URSS soupçonne que les États-Unis veulent, par l'aide Marshall, surmonter une crise de surproduction à la suite de la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc une concurrence directe pour les industries occidentales. D'autre part, sous couvert d'une aide économique et l'exportation de biens, l'URSS craint que, concrètement, des liens économiques solides ne se créent entre les pays d'Europe de l'Est et les États-Unis. Or, pour l'URSS, l'Europe de l'Est est une zone qui doit être une zone ami-amicale par opposition à ce qu'elle a connu dans l'entre-deux-guerres, à savoir ce qu'on appelle cordon sanitaire, tout un chapelet de pays frontaliers à l'ouest qui lui étaient tous hostiles. Donc ça, elle ne veut pas vivre cela à nouveau parce que la guerre est quelque chose de plausible. Donc il faut des pays amis sur les frontières occidentales. Amis, mais pas soumis. En 1947, certains États qui sont physiquement très proches de l'URSS font l'essentiel de leur commerce avec l'URSS, type la Bulgarie, mais d'autres États comme la Tchécoslovaquie font les deux tiers de leur commerce avec l'Occident. Donc c'est encore une zone, l'Europe de l'Est est encore une zone intermédiaire. Et finalement, la France souhaiterait que l'Europe de l'Est reste une zone intermédiaire. Beaucoup de pays aimeraient que cette Europe de l'Est soit une troisième voie, une troisième Europe, un pont entre l'Est et l'Ouest, comme on disait, en tout cas une zone tampon. C'est seulement à partir de 1947, quand les choses vont se raidir, que l'on va aller vers l'idée d'une coupure.
Qu'est-ce qui explique ce retournement finalement assez brutal au cours des négociations de la position soviétique et de Molotov qui va quitter donc cette conférence ?
Un télégramme de Staline. Ah, clairement, il a reçu des instructions et il y a eu un revirement brutal à Moscou qui fait que le représentant soviétique se retourne brutalement à son tour. Et c'est assez amusant de lire les mémoires de Molotov qui sont parus en France dans les années 90, qui sont des entretiens avec Chouïev. On lui demande « Mais alors le plan Marshall, qu'est-ce que vous en pensez maintenant, 40 ans plus tard ?» Et il répond « S'il trouve que nous avons fait un mauvais choix, c'est que nous avons eu raison de le faire, il n'y a aucun doute. » Donc l'idée qu'il y avait une intention américaine de subversion, d'immixtion, d'entrée par la petite porte économique pour asseoir une domination politique, ce soupçon qui est constant dans la conception soviétique, mais qui est croissant, avec une méfiance croissante à l'Est et à l'Ouest, dans cette année 47, explique ce rejet du plan Marshall.